Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous et nous sommes heureux de vous accueillir tout à nouveau sur notre site Bible Espoir. Et ce matin, nous allons ouvrir tout simplement un passage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 et au verset 31. Nous allons débuter par cette courte lecture qui nous rapporte ceci. Quand ils eurent prié, les disciples de Jésus, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous avons un regard sur l'Église primitive, comment les choses se sont produites pour amener véritablement l'Évangile au monde entier. Le récit est présenté par Luc, puisque c'est lui qui est l'écrivain de ce livre des Actes, qui est un livre d'histoire. Et nous voyons que Luc présente les choses à la troisième personne du pluriel, en parlant en effet de ce rendez-vous où ils ont vécu des choses extraordinaires. Nous voyons qu'il nous est dit seulement « ils », ce qui en souligne l'action communautaire et le partage, l'union étroite des croyants. Pour preuve, et je reprends d'autres passages qui se réfèrent à ce que nous avons lu, il nous est dit qu'ils élevèrent la voix à Dieu, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à prier. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec certitude, ils rendaient avec beaucoup de force témoignage, ils partageaient leurs biens et ils se tenaient tous ensemble. La communion est très marquée dans ce rapport que nous fait Luc. C'est le premier aspect, finalement, des choses. Le deuxième aspect, c'est que l'on peut appartenir à l'Église de Jésus-Christ et ne pas être pour autant son disciple, disciple de Christ. Parce que nous savons qu'un disciple, c'est un homme qui était mis à part pour Dieu, un homme qui se sanctifie, et nous savons qu'il y a un passage dans la Bible qui est très explicite dans le livre des Hébreux, il nous est dit « sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Nous verrons ultérieurement dans notre méditation qu'il est question de l'histoire d'un couple où il est en effet nommé Ananias et Saphira, et nous verrons que ils vont constituer un danger pour l'Église primitive parce que c'était un homme et une femme qui, quelque part, en effet, n'avaient pas cette conscience de la nécessité de la sanctification. Le troisième élément marquant, c'est la puissance de la prière dans l'unité. Je souligne bien dans l'unité parce que nous savons que nous pouvons prier à titre personnel, mais nous pouvons prier en famille, mais nous pouvons prier aussi en communauté. Et nous voyons que la substance même de la prière, unitaire des disciples, il s'adresse à Dieu et lui dit « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. » Ce qui peut entraver la dynamique du réveil si véritablement il n'y a pas d'unité. Certains membres, nous pouvons peut-être appeler irrégénérés, que nous nommons aussi dans la Bible les moutons noirs, dans le corps de Christ, certains membres dans le corps de Christ, nous voyons que les choses sont soulignées de cette manière, et c'est Pierre qui dira à ce couple, Ananias et Saphira, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, vos cœurs, votre cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Le mensonge, en effet, n'a pas sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Le mal ôté, nous nous apercevons et nous en verrons véritablement le contenant. Le réveil repart et s'intensifie, puisqu'il nous est simplement souligné aussi dans un autre texte du livre des Actes, beaucoup de miracles et de prodiges se faisait au milieu du peuple et tous étaient guéris. Nous croyons qu'il y a un courant bienfaisant qui est marqué par l'unité, qui est marqué par la prière de la foi. Et nous savons que, eh bien là, il y a en effet une œuvre aussi qui guérit les malades. La communauté de Jérusalem, puisqu'il s'agit de cette église, une église qui se caractérise par quatre éléments vitaux, une église militante, une église qui travaille, une église qui souffre et une église qui prie. Le contexte, eh bien, est cadré par cette, en effet, situation ambiante, c'est que les autorités religieuses ont interdit aux disciples de confesser Jésus. Dans cette situation de l'apparition de Jésus, eh bien, ils ont l'ordre de se taire, de ne pas parler, de ne pas rendre témoignage. Parce que nous voyons qu'en arrière-plan, eh bien, la persécution guette, elle menace. Et la réaction des disciples est instantanée, eh bien, elle est humaine, c'est la crainte et le découragement. Dans un des versets également, il nous est dit que lorsqu'ils eurent entendu les menaces, les disciples élevèrent la voix, tous ensemble, un cœur, une âme. Premier test d'appartenance, la solidarité chrétienne. Tous ceux qui touchent l'œuvre de Dieu rassemblent les vrais chrétiens. L'indifférence n'est pas de mise. Les divergences qui peuvent exister entre les hommes, entre même les chrétiens, toutes les divergences secondaires s'effacent. Parce que nous sommes tous concernés, et l'Église chrétienne de Jérusalem était particulièrement concernée bien dans ces temps de menaces de tempête. On ne mesurera jamais assez la présence et la puissance d'une réunion de prière qui unit les croyants déterminés et qui sont entièrement engagés. À la suite du récit, à l'évidence, eh bien cela nous est démontré à travers quelques versets. La première précaution dans les moments cruciaux de la vie individuelle et de l'Église, c'est la stimulation de la foi. Premièrement, par le souvenir de la toute-puissance créatrice de Dieu. D'ailleurs, les choses sont écrites dans la parole « Seigneur », la prière des disciples, « Seigneur, toi qui as fait », ce qui sous-entend que cette même main reste toujours semblable. Le deuxième point, il est dit également dans le contexte de la prière, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Alors jamais rien ne démentira la vérité des affirmations divines. Le Dieu de la création se trouve être également le Dieu de la révélation. Le faire et le dire, ou plutôt le dire et le faire. Ça, c'est véritablement les prérogatives de Dieu lorsqu'il nous fait des promesses. C'est en prière ensemble que l'Église de Jérusalem a découvert les vérités essentielles qui lui ont permis de contrer l'abattement, le découragement survenu à travers les menaces produites par les circonstances, et de là, d'y puiser l'énergie, la détermination, l'assurance. Nous voyons que tous ces combats et ces luttes ont un effet contraire à ce qu'attendaient les autorités religieuses. Détermination, assurance qu'elle avait besoin dans ces moments de menace. La prière en commun, en est la clé de voûte. Et nous avons la nécessité, et de ne pas nous relâcher, de prier et de prier ensemble. Il nous est dit à un moment donné, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Nous voyons que le plan de Dieu est déjà en place. Dieu est souverain. Toutes les ligues, les conspirations, les manœuvres les plus habiles qui s'élèvent contre les plans de Dieu finiront toujours par servir la cause de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous connaissons naturellement cette citation de Paul dans Romains. D'autant plus grand, d'autant plus quand l'Église assemblée et elle prie. Et encore une fois, c'est en prière que les chrétiens reçoivent la connaissance. Et ils reçoivent également de la part de Dieu l'intelligence de la stratégie spirituelle, la lutte qu'il faut mener et le combat que nous avons à engager ou que le diable a engagé et que nous avons à nous défendre. Que l'Église se sclérose, perd son dynamisme, ces défenses immunitaires spirituelles? La réponse est claire, c'est le manque de prière, c'est le manque de conscience de la nécessité de témoigner notre foi à Dieu quand les événements, quand les situations sont parfois même désespérées. Le manque de prière, et quel événement viendrait troubler les enfants de Dieu alors? Leur bouclier, c'est véritablement l'intercession. L'intercession par des cris, par des soupirs, par la supplication. La prière sert à montrer à Dieu ce qu'il sait et qu'il voit déjà, ce que Dieu connaît avant que nous connaissions nous-mêmes. L'Éternel maintenant voit leurs menaces, une des parties finalement, une des composantes de la prière de l'Église primitive. Maintenant, Seigneur, tu vois leurs menaces, tu entends leurs menaces. Pourquoi il faut prier? Puisque nous savons que Dieu sait tout. Mais il faut prier quand même. Mieux encore, s'assembler ensemble, former finalement un groupe d'intercession, lui confère encore plus de force. Le caractère même des chrétiens de Jérusalem était une protestation, une plainte en d'autres termes, une plainte contre en d'autres termes. Ça voulait dire en quelque sorte à Dieu, eh bien, laisseras-tu faire les choses sans réagir? Secours-nous, Seigneur. Menace et menace. Les croyants avaient en vue un danger apparent, parce qu'il y avait naturellement les opposants extérieurs, on a parlé des autorités, en effet, religieuses du temps, alors qu'au sein même de l'Église, et c'est là où nous allons nous diriger dans notre méditation, alors qu'au sein même de l'Église se cachait un tout autre danger invisible qui allait, par son existence même, parmi le peuple de Dieu, empêcher Dieu de donner la pleine mesure à l'exaucement réclamé. Ce danger s'appelait Ananias et Saphira. Et c'est là où nous avons besoin d'avoir, eh bien là, ce don de discernement par l'Esprit. Il visait l'œuvre de Dieu dans sa propagation, il visait aussi l'honneur de Dieu, l'intégrité et la sainteté de l'Église, donc la crédibilité de l'Évangile. Il fallait absolument eh bien, demander à Dieu son aide et son secours. Dieu va répondre à la prière de plusieurs manières fort inattendues. Premièrement, faire trembler les murs et les cœurs des chrétiens et les cœurs de ses adversaires également. Et puis, conférer pleine autorité au ministère de la parole. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est renforcer l'unité et la solidarité des enfants de Dieu qui prient. Le quatrième point, c'est purifier la communauté des croyants. Parce qu'il y a parfois, eh bien, là, à notre insu, des bombes à retardement que nous ne voyons pas et qui finalement eh bien, peuvent être utilisées par l'adversaire pour empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser. Cinquièmement, eh bien, c'est inspirer un profond respect quant au sérieux de la foi. Sixième point, en répandant un souffle de réveil accompagné de miracles et de prodiges. Parce que le but, c'est là aussi, c'est que Dieu va véritablement eh bien, faire de son Église une Église sainte, mais il va aussi eh bien, répandre ses dons pour que, eh bien, il puisse y avoir une démonstration de puissance et d'esprit, miracles et prodiges. Il faut bien comprendre qu'entre les supplications des fidèles comme celle-ci, donne à tes serviteurs d'annoncer, et le plein exaucement, Dieu se voit parfois, je dis bien parfois, obligé de secouer vigoureusement ce qui est solide afin qu'il devienne, le devienne davantage. Et à l'inverse, ce qui est chancelant ou boiteux s'effondre totalement et ne vicie le climat spirituel du réveil réclamé. Certes, Dieu exauce, mais fait le nettoyage, même au sein de son peuple. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Nous voyons que Dieu accomplit son œuvre. L'action du Saint-Esprit, quand il passe parmi eh bien, son peuple, fait trembler les cœurs, les ébranle, les anoblit, et nous voyons que c'est un élan d'entraide et d'amour fraternel pour le partage. À défaut, quand on lui résiste, Dieu est monde, et parfois dévoile le mensonge, met en lumière l'hypocrisie, les tortuosités, le péché de la langue, que l'on peut appeler la critique, sous la pression, l'Église s'affermit ou s'écroule, d'une manière ou d'une autre. Soit on conserve le mal au milieu de nous, ou soit ce n'est pas à nous de l'évacuer, mais c'est Dieu qui va nous aider à véritablement faire le nettoyage par sa stratégie à lui et non pas la nôtre. Le plus terrible reste l'inconscience du sommeil. Quand une église sommeille, qu'elle somnole, qu'elle a perdu conscience de sa mission, alors à ce moment-là, c'est véritablement un grand danger. Avant de considérer l'ombre au tableau que représente le cas d'Ananias et Saphira, qui menace le réveil, voyons d'abord le fruit savoureux du Saint-Esprit qui est répandu, qu'est l'union de cœur et d'âme des chrétiens de Jérusalem, dont il est bien précisé cette parole, à travers cette parole, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Alors qu'est-ce que veut dire le mot « église » ? C'est important, ça veut dire tout simplement, assemblée, réunion, assemblée. Une conception des plus évangéliques est pourtant très contestée aujourd'hui, parce que la religion, on peut dire que finalement, elle a été désavouée par ses propres fautes, finalement, par ses propres erreurs, par ses propres scandales. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la considération a beaucoup, en effet, baissé. On prétend vouloir être chrétien, solitaire, c'est ce qui fait peut-être le mal, faire cavalier seul, l'indépendantiste au niveau de le fait de la foi est à la mode, c'est l'engagement sans contrainte. On ne veut plus de contrainte, on ne veut plus finalement être obligé de ceci et cela. Alors, quand c'est Dieu qui nous demande de faire des choses, là il n'y a pas de problème, ça sera toujours une bénédiction. Mais quand ce sont les hommes qui décrètent des dogmes, qui décrètent toutes sortes de choses, alors ça c'est une autre affaire. Par ailleurs, ce n'est pas sans raison que Dieu compare son Église à l'union dans le mariage qui a ses règles. Le mariage assemble et constitue une famille qui, accepterait une alliance de mariage avec seulement la consommation de ce même mariage sans la cohabitation et un demi-engagement. Alors on va poursuivre maintenant et on va aborder la tragique histoire du couple Ananias et Saphira, dont la faute, parce que c'est une faute qui a pour origine la cupidité, fait courir le risque de stopper l'évolution du réveil dans l'Église primitive. Mais c'est vrai aussi pour notre temps. Le monde a une piètre idée du mariage parce qu'il a été dévalorisé par toutes sortes de choses. Comment aurait-il une juste opinion, de l'Église ? Dieu a voulu, en instituant l'Église, éprouver la fidélité des croyants. Et nous avons besoin finalement de nous souvenir de ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ne méprisez pas l'Église de Dieu, parce qu'elle est une maison sainte, parce que Dieu en a fait sa demeure, parce que les hommes qui l'y habitent, c'est-à-dire les chrétiens, sont des hommes qui veulent aller plus loin dans leur vie spirituelle, dans leur vie de foi et dans le service qu'ils ont dédié à Dieu. Église et fidélité à Christ sont synonymes. Dans le livre des Actes, et je vais citer le chapitre 11, verset 25, « Pendant toute une année, nous voyons que les premiers chrétiens se réunissaient aux assemblées de l'Église. » Alors c'est vrai que c'est un avis, c'est une prévention contre les chrétiens qui ont la bougeotte et qui passent d'un endroit à un autre, d'une église à une autre, etc., toujours en recherche de nouveautés et de curiosités. Jésus vient chercher son Église, nous dit la parole de Dieu, et pas forcément de ses satellites. Oui, il nous faut que nous soyons impliqués dans l'Église d'une manière conséquente, d'une manière assidue, et c'est vrai, je le répète, Jésus vient chercher son Église, et pas ses satellites, ceux qui tournent autour. Nécessité d'une implication dans le corps de Christ. Nul ne disait, et c'est là ce qui nous amène à ce que nous voulons développer maintenant simplement, avec le scandale d'Ananias et Saphira, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en communion, entre eux, partagé entre eux. Nous avons aussi l'histoire, et nous y arrivons, l'histoire qui fait la suite, révèle que la communion fraternelle est le meilleur test pour amener en surface notre vraie nature, le vrai caractère de chacun des chrétiens, et qu'il ne faut pas confondre fraternité, liberté évangélique avec la duplicité. Et c'est bien le problème, j'ai cité tout à l'heure la cupidité de ce couple, mais on peut également citer la duplicité de cela. Le but, le brutal jugement qui va fondre sur ces deux membres de l'Église de Jérusalem démontre à l'évidence que la vie et le mal eh bien, ne peuvent coexister, cohabiter, mais qu'au contraire, Dieu veut que la vie et le bien parmi son peuple soient étroitement liés et qu'ensemble, ils constituent la sainteté, cette sainteté qui sera là, amenée à la perfection lorsque nous serons dans le royaume des cieux. Parce que Dieu a dit « Je suis saint, alors soyez saints ». Ananias et Saphiras ont cru pouvoir se moquer de Dieu. Je fais un bref résumé du texte. Il nous est simplement parlé que quelqu'un, ce fameux Ananias, avait vendu sa propriété. Il était retenu, et il avait retenu secrète une partie du prix, parce qu'il voulait en garder une partie pour lui et puis donner une partie à l'Église en laissant l'impression qu'il avait tout donné. Préméditation pour faire croire hypocritement à leur généreuse libéralité, mais la supercherie est très vite découverte à travers, l'apôtre Pierre. Mentir au Saint-Esprit, tragédie, tromper Dieu, tromper les frères. J'aimerais justement que nous puissions lire ce passage de Ananias et Saphira, parce qu'il est important, et dans le livre des Actes, au chapitre 5, il est dit ceci. « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas ?» Et après avoir été vendu, le prix fixé n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Je poursuis la lecture. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Elle mentait naturellement. Alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront de même. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et c'est là où c'est intéressant. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà une façon dont Dieu remet les choses tout simplement en place. Et puis, nous allons bientôt terminer. Nous voyons que c'est une sanction radicale qui survient. C'est la dramatique de l'exemple, l'interdit de Dieu. Nous voyons que cet interdit peut venir tout autant par le ressentiment, un mauvais état d'esprit, la critique, les murmures, l'amertume, autant de péchés cachés dans les cœurs et qui entravent, s'ils ne sont pas dévoilés, l'œuvre de Dieu et la frappe de stérilité spirituelle. À un moment, Dieu tranche par une révélation du Saint-Esprit. Et il nous est dit dans un autre passage du Nouveau Testament, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, y compris le mensonge, la dissimulation, poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » D'où la sévérité sur la personne d'Ananias et de Saphira qui sont tombés reines morts. La raison morale de Dieu, c'est ce qu'il nous est dit, c'est la crainte du mal d'abord. Nous voyons que Ananias, qui a entendu les paroles de Pierre, tomba, expira. Un peu plus loin, il est dit qu'au même instant, Saphira tomba aux pieds de l'apôtre et expira de même. Foudroyé par le péché, comme on peut l'être, par un câble à haute tension, c'est une image que je prends. Pour tout homme, le péché porte l'écriteau « danger de mort », libre à chacun de braver ou de respecter l'avertissement. S'il le brave, il est électrocuté. Il faut comprendre que dans l'Église de Dieu, poursuit un plan régénérateur. Il l'accomplit par un courant de haute tension morale, je dis bien de haute tension morale, la sainteté. On ne peut la violer impunément. L'expérience, c'est un état, l'état du mal, est un attentat à la sainteté de Dieu. Cependant, Dieu est par nature un Dieu qui fait grâce, et il est le Dieu de l'amour. Et il a finalement, par son plan de salut, ranimé la vie par son esprit. Il a sauvé, il lui a fait grâce à l'homme, il a délivré les hommes que nous sommes par Jésus-Christ de la secousse. Nous pouvons parler de secousse originelle dans le jardin d'Éden. Et c'est à ce que Ananias et Saphira, prétendument chrétiens, pseudo-chrétiens, avaient oublié. Ils étaient des commotionnés et non des immunisés. On peut dire que le péché commotionne les hommes, mais nous savons que par la foi en Jésus-Christ, par notre appartenance à Jésus, par notre vie nouvelle, par une nouvelle création en nous, nous sommes des immunisés maintenant. Et nous voyons que ces deux transfuges, ces deux menteurs, on peut dire, pourquoi as-tu menti, non pas aux hommes mais au Saint-Esprit, ils avaient simplement oublié qu'ils portaient encore en eux le vieil homme qui attire fatalement le courant de la mort, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous voyons qu'un réveil peut se produire. Les plus grandes choses que Dieu a promis de donner et de faire voir à son peuple, d'utiliser son peuple pour le miraculeux et le surnaturel, c'est la sanctification. Il faut quand même le souligner. Résultat positif dans l'Église, quand le mal disparaît. Il nous est dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut appeler le réveil. Alors un réveil transcendant, un réveil immédiat, un réveil qui fait un bruit énorme, nous pouvons dire, mais un réveil qui se fait aussi dans le temps. Saison après saison, temps après temps, année après année, mois après mois. Le réveil vient quand l'Église prie, nous allons nous en souvenir, quand l'Église s'unit et quand l'Église se sanctifie. Alors que Dieu nous bénisse à travers sa parole que nous avons évoquée ce matin, que nous avons commentée ce matin. Et merci pour votre attention, merci pour la grâce que vous portez à la parole de Dieu, la parole enseignée de Dieu. Et soyons, nous, à notre place, en tant que disciples de Jésus-Christ, pour le servir. À bientôt, et que Dieu vous accompagne dans ce que vous avez entendu et ce que vous allez vivre maintenant. Merci à tous.